Potentiel, le podcast qui t'aide et t'encourage à explorer et développer tous tes potentiels. Oser être soi avec toutes ses particularités, voilà en quoi consiste mon travail depuis des années. Moi, c'est Élodie, diplômée en psychologie, en psychanalyse, coach, médiatrice familiale, formatrice et autrice de nombreux livres sur les atypies. Moi-même concernée, multipassionnée et au multipotentiel, j'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas? C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Et bonjour à tous et à toutes, comme chaque lundi on se retrouve et je suis vraiment trop contente de vous parler d'un sujet phare, pour moi en tout cas, en tant que conseillère d'insertion et de transition professionnelle, un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis plusieurs années parce que vous savez en plus que j'ai tout un programme OVPA, Oser la vie professionnelle atypique, pour parler de ce sujet-là, donc c'est vraiment un sujet hyper important pour moi et j'avais donc vraiment hâte de vous partager cet épisode de podcast. Donc on y va direct. Oui, j'ai beaucoup trop de témoignages malheureusement qui me disent franchement, tu fais que me dire que Élodie, que l'atypie c'est un atout, mais dans le monde du travail c'est hyper compliqué, surtout lorsqu'on est hypersensible. On me dit souvent, honnêtement, en tant que personne hypersensible, en tant que personne atypique, chaque interaction au travail peut être hyper énergivore. Ça peut être les montagnes russes émotionnelles. Et j'ai la sensation que dans le monde du travail, dans le monde professionnel, mes émotions ne sont pas du tout acceptées. Il faut que je les cache, j'en ai honte. Sinon, on a l'image que je suis une personne justement qui n'est pas professionnelle, qui n'est pas compétente. Un peu la personne immature émotionnellement. Donc trouver un équilibre avec sa sensibilité et en même temps avec cette envie d'être efficace professionnellement, c'est un défi constant. On peut parler, oui, d'efficacité professionnelle. Pourquoi ? Parce que, et notamment chez les femmes atypiques, hypersensibles, chez les hommes également, mais je pense notamment à beaucoup de femmes là que j'ai en tête, que j'accompagne actuellement, elles ont envie de bien faire, elles ont une exigence en fait naturelle, un perfectionnisme, l'envie vraiment de bien faire. Il y a un idéal en fait qu'elles ont et forcément elles sont plus susceptibles à faire un burn-out. L'environnement de travail aussi un peu standard peut sembler hostile pour les personnes atypiques, pour ceux en plus qui ressentent les choses intensément, qui ressentent les tensions avec les collègues, avec leur manager, ça devient horrible en fait. Tout ça, ça fait perdre une énergie de dingue. En bref, s'adapter au milieu professionnel, quand on est atypique, c'est un peu comme marcher sur un fil tendu entre émotion et performance. Dans le sens où il y a une intensité, c'est jamais plat, comme un électrocardiogramme au niveau des émotions et au niveau aussi de sa performance. Et c'est intéressant de voir à quel point justement les deux sont liés. Nos émotions vont avoir un impact sur notre performance et notre performance va avoir un impact sur nos émotions. Et lorsqu'on comprend ça, on comprend mieux à quel point c'est hyper important de comprendre l'environnement professionnel dans lequel on va pouvoir s'épanouir. Et ça tombe bien, cet épisode de podcast est fait pour ça. Du coup, je vais essayer de relater 5 grandes difficultés qu'ont les personnes atypiques avec une grande sensibilité pour s'épanouir au travail. La première, et je pense que beaucoup l'ont ressenti, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire au retour du podcast ce que vous en pensez, la surstimulation émotionnelle et sensorielle dans l'environnement professionnel. J'en viens un petit peu d'en parler, mais je vais essayer de développer. Je crois que le problème, c'est que beaucoup d'atypiques, et notamment hypersensibles encore une fois, ne connaissent pas, mais vraiment, ont une vraie méconnaissance de la couleur de leur atypie. Alors, c'est une expression que j'explique beaucoup et notamment dans mon programme, encore une fois, mais donc c'est parce que je fais un gros clin d'œil aux personnes du programme. Mais la couleur des atypies, c'est comprendre comment se colorent les atypies chez vous. J'avais fait un podcast à ce sujet, d'ailleurs, pour vous expliquer que deux personnes hypersensibles, par exemple, ne se ressemblent pas. Elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre, en fait, la couleur de ta propre atypie. De te dire, mais en fait, moi, comment ça se colore chez moi? Et ça, c'est lié à l'éducation qu'on a reçue, à la culture, aux expériences de la vie, à l'entourage que nous avons également. Si, par exemple, tu as un entourage qui fait que te dire que tu es trop sensible, qu'on ne peut rien te dire, que tu es susceptible, en fait, tu vas devenir effectivement susceptible parce que, en fait, tu t'en prends plein la gueule tout le temps, quoi, concrètement. Si au contraire, tu as un environnement plutôt bienveillant, où on va te dire « mais c'est génial, qu'est-ce que tu es créative, je peux te parler de plein de choses, j'ai totalement confiance en toi, qu'est-ce que tu as à l'écoute, qu'est-ce que tu es empathique ?» En fait, c'est trop bien parce que vous allez développer ça comme un potentiel et se dire « je peux être une personne très à l'écoute, même dans le monde du travail, on vient vite me trouver pour se confier à moi. J'ai en fait une place particulière dans l'équipe, je le sens, et je suis importante au sein de cette équipe. Et donc, ma sensibilité, en fait, dans le monde professionnel, est plutôt vue positivement. » Donc, il faut comprendre en fait comment vous êtes dans vos couleurs d'atypie, et notamment vos hyperesthésies. Les hyperesthésies, pour rappel, ce sont vos cinq sens. Donc, on en a cinq, hein, voilà, l'odorat, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher. Et ce qui va être important, c'est de comprendre à quel point elles sont affectées rapidement et en intensité. Il y a des personnes, clairement, elles ont une hyperesthésie auditive bien plus haute que la moyenne, et donc elles sont vraiment gênées par les bruits ambiants. Ça les empêche de se concentrer. Pour peu qu'elles ont en plus un TDAH, ce qui fait que elles peuvent se déconcentrer assez facilement sur des tâches qui leur est plus difficiles ou qu'elles trouvent moins intéressantes, parce que dans tous les métiers, il y a toujours des tâches moins intéressantes, eh bien c'est plus compliqué que quelqu'un qui n'a pas un TDAH ou qui n'a pas une hyperesthésie auditive, parce que elle va pouvoir être refocus, se reconcentrer plus facilement et plus rapidement sur sa tâche. Donc elle va y passer moins de temps et ça sera du coup moins douloureux. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut en fait réaliser. Encore une fois, soit on en prend conscience seul, soit on peut avoir l'aide d'un professionnel. Il y a un annuaire sur mon site internet ou en story à la une sur mon compte Instagram où je relate tous les noms des professionnels que j'ai formés moi-même en fait et qui, à mon sens, peuvent vous aider justement à mieux comprendre la couleur de vos atypies. Donc ça, c'est hyper important parce que, en fait, vous allez passer de la surstimulation émotionnelle sensorielle à justement la stimulation normale et vous serez donc beaucoup moins fatigué, autant émotionnellement que sensoriellement, arrivé en fin de journée. Parce que, et j'ai envie de suite de vous mettre à l'aise, beaucoup trop de personnes atypiques, hypersensibles, culpabilisent et s'autoflagellent en fin de journée en se disant « Ah, pourquoi moi je n'ai pas l'énergie de faire ça ? Par exemple, pourquoi moi je n'arrive pas à aller au sport en fin de journée parce que je suis trop fatiguée ? Pourquoi je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants comme je voudrais parce que je suis trop fatiguée ?» Ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, ils se comparent à d'autres personnes, mais tout simplement parce que les autres personnes, soit ils n'ont pas la même hypersensorialité et la même hyperémotivité que vous, donc en fait, on ne peut pas comparer ce qui est incomparable, soit ils ont juste adapté leur environnement à leur surstimulation naturelle. Et quand on adapte l'environnement, c'est beaucoup plus facile. La deuxième difficulté, c'est la difficulté, en fait, à faire face aux critiques et aux conflits. Alors ça, on va dire plus largement aux relations interpersonnelles. Je vous ai parlé donc de la fatigue émotionnelle, de la fatigue sensorielle, et il y a la fatigue relationnelle. Celle-ci, là encore, tout le monde ne la connaît pas. Mais c'est épuisant de faire face aux autres. Je pense notamment aux personnes qui sont TSA, qui ont effectivement des caractéristiques, on va dire plus largement, de l'autisme, sans parler d'autisme forcément, ou bien des personnes qui sont tout simplement plutôt introverties. Je rappelle encore une fois qu'il faut arrêter avec cette idée reçue de se dire que tous les hypersensibles sont introvertis. C'est totalement faux. Il y a eu des études à ce sujet qui démontrent qu'il y a autant d'extravertis, introvertis, ambivertis. Donc ambivertis, c'est le mélange des deux. Donc tout le monde n'est pas introverti. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que, en fait, selon encore une fois là où on est et comment on se situe, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc, une personne introvertie, oui, les relations interpersonnelles sont plus fatigantes, effectivement. Donc, même si on passe de bons moments, dans le monde du travail, comme partout, potentiellement, il y a des conflits. Et potentiellement, parfois, notre travail n'est pas à la hauteur de certaines attentes. À juste titre ou pas, c'est pas le sujet, mais on fait face à des critiques. Ça fait partie aussi des relations interpersonnelles, parfois, de devoir faire face à des critiques. Les critiques ne sont pas toujours constructives. Et quand bien même elles le seraient, on peut être touché par ces critiques. Même si elles sont bienveillantes, même si elles sont constructives, lorsqu'on a effectivement une critique sur son travail, c'est jamais facile à encaisser, mine de rien. C'est jamais évident. Et puis, on a des périodes aussi plus vulnérables, où c'est encore plus compliqué d'encaisser ces critiques-là. Et ça, c'est difficile. Je crois que il faut aussi l'accepter. Beaucoup, encore une fois, d'hypersensibles culpabilisent en disant « je suis trop susceptible », mais parce qu'on leur a souvent dit ça, en fait. Et je trouve que ça a un peu bon dos aussi, les gens qui vous disent des critiques, mais alors absolument pas constructives, c'est mettre les pieds dans le plat, ça fait mal, et après, ils vous sortent « on peut rien te dire, t'es trop susceptible ». Franchement, levez la main là si ça vous est déjà arrivé. Ouais, je vous vois pas, mais n'hésitez pas à m'envoyer ça en commentaire encore une fois. Parce que c'est une vraie réalité ça, ce truc de je t'envoie une grosse bombe et après, comme ça explose, ben, je t'envoie en disant « Oh, ben, c'est bizarre quand même, pourquoi ça a explosé ? Ben, c'est ta faute !» Ben non, en fait, à un moment donné, il faut aussi que tout le monde se responsabilise. Oui, c'est vrai, on n'est pas censé prendre la mouche lorsqu'il y a une critique, on peut aussi totalement l'accueillir, mais ça dépend comment elle est lancée aussi. Hein. Je veux dire, ça, c'est quand même une réalité, ça dépend comment on nous balance le truc. Mais même si, encore une fois, c'est dit avec beaucoup de bienveillance, avec le maximum de tact possible, ben, c'est difficile à encaisser. Et ça, ça fait aussi écho à une particularité, notamment dans le cerveau des hypersensibles, c'est que nos émotions, cette hyper-émotivité, en fait, c'est vraiment en dents de scie. Donc ça va monter, ça va faire monter notre stress, parce qu'il y a une plus grande peur de décevoir chez les hypersensibles. Donc derrière une critique, il y a ça, c'est « je ne suis pas à la hauteur ». Donc déjà, il faut réaliser que ce n'est pas vous qui n'êtes pas à la hauteur, c'est une tâche, une compétence, un travail en particulier à monter. Mais c'est vrai qu'émotionnellement, bah, ça fait un énorme pic de stress, ça peut déclencher beaucoup d'émotions, de la tristesse, de la colère, plein de choses, de la déception, un sentiment peut-être même de trahison, bref, ça peut déclencher énormément de choses. Et bah, l'hyper-émotivité, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même une plus grande intensité de l'émotion par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, cette intensité, elle est plus haute, mais elle va durer plus longtemps. Donc forcément, c'est plus compliqué, quand on est hypersensible, c'est vrai, de faire face à la critique ou d'être face à un conflit. Soit on est dans le conflit, mais même juste assister à un conflit, je sais que beaucoup d'hypersensibles m'ont dit « ça me met extrêmement mal à l'aise ». Même de voir une scène de conflit dans un film peut me mettre mal à l'aise. Eh ben, c'est ok en fait. C'est totalement ok et j'ai envie de vous rassurer, vous n'êtes pas du tout anormaux. Moi aussi c'est le cas et toutes les personnes que j'accompagne c'est aussi le cas. Donc il faut vraiment, en fait, je pense dédramatiser cette idée de penser « je ne suis pas normale ». Non, vous êtes normale, il n'y a pas de problème avec ça. Et quand bien même vous serez seule à ressentir ça, ben en fait, ce serait quand même normal parce qu'on est des milliards d'individus sur cette planète. On ne se ressent pas tous, même si on a plein de similarités. Mais c'est bien aussi, en fait, de se dire que ce n'est pas parce que je ne trouve pas quelqu'un d'autre qui fonctionne exactement comme moi que j'ai un problème. Donc, voilà. Une troisième difficulté, c'est, je pense, ce besoin de solitude et en plus marqué beaucoup plus chez les introvertis, ce besoin de temps de récupération. Donc, je vous ai parlé de trois fatigues, rappelez-vous, la fatigue émotionnelle, sensorielle, relationnelle. Et du coup, bah, je demande souvent aux personnes comment, en fait, vous arrivez justement à retrouver de l'énergie. Quels sont les temps de récupération ? Et notamment, finalement, dans des contextes sociaux ou collaboratifs qu'amène le monde professionnel. Alors là, chacun a sa stratégie. Des fois, on me dit, ben, moi, je vais m'enfermer dans les toilettes. Je ne peux pas manger avec mes collègues, mais je mange seule dans ma voiture. Et là, je me rends compte que parfois, on récupère pas toute l'énergie, tout simplement parce qu'on a cette petite voix en tête qui nous dit, c'est pas normal, tu devrais faire, ou tu devrais être, ou tu devrais... Enfin, voilà, ce truc de se dire, ben, je suis seule, c'est compliqué, on va me juger. Mais ça vous fait perdre énormément d'énergie. Alors qu'en fait, si vous étiez en train de dire, ben, c'est génial, parce qu'en fait, c'est vraiment un temps de récupération pour moi. Si vous arrivez à vous convaincre de ça, vous allez réussir à convaincre les autres de ça. Je vous assure que ça marche. Si vous êtes vraiment en fait aligné et ancré sur cette décision de temps de récupération qui vous est nécessaire, en fait, vous allez pouvoir l'expliquer aux autres. Et peut-être qu'au début, vous allez être jugé. Peut-être qu'au début, les gens ils vont pas vous comprendre. Parce qu'en fait, ils se rendent pas compte eux-mêmes qu'en général, ils tirent trop sur la corde, qu'ils ne sont pas du tout à l'écoute de leurs émotions. Et c'est beaucoup plus simple de juger, de critiquer une personne qui fait quelque chose qu'on aimerait faire, que plutôt de se remettre en question, de se dire bah, « peut-être que moi aussi je pourrais m'autoriser à faire ça ». Donc oui, dans un premier temps, ça ne sera peut-être pas accepté. Mais je peux vous assurer, par de multiples expériences personnelles ou de personnes que j'ai accompagnées, qu'en fait, au fur et à mesure, vous allez être le changement au sein même en fait, de votre milieu professionnel. Après, je ne dis pas que vous avez la responsabilité de changer quoi que ce soit. Mais déjà, peut-être de trouver une solution pour vous, c'est déjà un grand pas. La quatrième difficulté, c'est d'établir des limites saines entre sa vie professionnelle et personnelle. Ah, le sujet qui est compliqué. Là encore, j'avais fait tout un module dans l'OVPA, donc le programme. Alors, je pense que ça va être plus simple parce qu'à chaque fois, je fais des ponts avec l'OVPA, mais parce que je sais qu'il y a plus de 200 ou 300 femmes que j'ai accompagnées dans ce programme et il est incroyable. Et je l'ouvre à des temps, en fait, bien particuliers dans l'année. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos pour les personnes qui sont intéressées, ça sera plus simple. Mais c'est vrai que pour celles qui vont écouter ce podcast, revoyez le module, justement, équilibre vie pro, vie perso. Sinon, pour les autres, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cet équilibre, il n'est jamais totalement stable. Je pense qu'il ne faut pas avoir, en fait, cet idéal de « je vais vraiment tout gérer, ça, l'équilibre va être parfait ». En réalité, parfois, ça va, il va y avoir un déséquilibre. Je donne un exemple personnel, mais quand mes enfants sont malades ou que je suis malade, enfin voilà, forcément, ma vie perso va prendre plus d'espace que dans ma vie professionnelle. Lorsque, par exemple, dans ma vie professionnelle, j'ai, à un moment donné, parce que mon travail n'est pas toujours cyclique, il n'y a pas toujours, en fait, la même chose, et je pense que, enfin, rares sont les métiers où il y a la même charge de travail toujours en continu. Parfois, on a une charge de travail sur un temps beaucoup plus lourde, et donc je vais travailler beaucoup plus, et même sur des temps très tard le soir, très tôt le matin, entre midi et deux, enfin voilà. Donc forcément, ça prend plus de place que ma vie personnelle. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est lorsque la balance, en fait, elle penche trop d'un côté, trop longtemps. Donc essayez de voir ça, parce que c'est ce qui déclenche souvent, justement, un épuisement. Donc, lorsque la balance commence à aller d'un côté, de l'un ou de l'autre, questionnez-vous à savoir, est-ce que là, c'est OK pour moi? Ou est-ce que déjà, je dois mettre des choses en place pour rééquilibrer, sans mettre de pression, mais juste, je l'ai en tête, parce que je sais que si ça dure, ça va être compliqué. Et enfin, la cinquième difficulté, c'est la tendance à internaliser le stress et la pression. C'est ça qui conduit à un véritable épuisement professionnel. Donc ça fait lien avec les points précédents. En fait, je crois que beaucoup trop d'atypiques attendent trop longtemps. Et c'est logique. Quand on sait que les personnes atypiques, elles sont très exigeantes. Elles peuvent faire beaucoup. Et je le répète, parce que ça, je l'ai souvent dit dans mes réseaux sociaux, ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Je vous répète cette phrase parce qu'elle est hyper importante à mon sens. Ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. Il y a des choses qu'on culpabilise très vite, en fait, de dire non. On a du mal à dire non. On a du mal aussi, peut-être, à admettre que potentiellement, on va arriver à nos limites. On a envie que les gens soient fiers, on a envie de ne pas décevoir, on a envie presque d'être irremplaçable, de prouver sa valeur parfois. Donc, il y a peut-être aussi un travail à faire sur l'estime de soi, bien sûr, mais il y a aussi cet idéalisme de se dire « Ah, je vais faire ça encore mieux. Est-ce que je peux pousser encore un peu plus ?» Et c'est normal, parce que je suis la première à être accro au challenge dans le sens où c'est hyper chouette de se dire jusqu'où je peux aller. Mais la problématique à ça, c'est que jusqu'où vous pouvez aller, en fait, vous pouvez aller jusqu'à l'épuisement. Et c'est un peu frustrant de se dire « Mince alors, j'ai besoin de dormir. Mince alors, j'ai vraiment besoin de pause. Mince alors, finalement, je suis stressée. » Et les premiers signes de stress, on a tendance, encore une fois, à les internaliser. Et ça renvoie peut-être, encore une fois, à la couleur de vos émotions, à savoir finalement comment ça fonctionne chez vous, pour pouvoir repérer, en fait, les premiers symptômes de stress. Alors, un stress, en fait, qui arrive comme ça et qui repart, enfin, des petits pics de stress qui sont finalement liés à une temporalité, ce n'est pas grave, c'est normal, ça fait partie de la vie. Là où ça va être plus problématique, c'est lorsque c'est chronique, parce que ça peut générer de l'anxiété. Et ça, on peut le voir chez nos enfants, par exemple, s'ils vont la boule au ventre à l'école, c'est problématique, c'est des premiers signes hyper importants à prendre en considération. Il en est de même pour vous. Si vous avez pris beaucoup de poids, si vous avez perdu du poids, si vous avez d'un coup des problèmes de peau, vous avez des problèmes intestinaux, ce genre de choses, en fait, et il y en a plein d'autres, ça peut être un signal. Alors attention, bien sûr, je ne suis pas médecin, donc ça peut être un signal d'autre chose, et puis ça peut être lié à plein d'autres choses aussi. Mais d'être à l'écoute de son corps comme ça, ça permet, je pense, d'éviter justement d'attendre quand c'est trop tard, et donc de tirer sur la corde. Encore une fois, vous savez, je suis quand même férue d'études scientifiques, et donc, je vous mets ça en barre d'infos comme d'habitude, vous avez, Mais il y a pas mal d'études qui offrent un aperçu des différentes dimensions notamment de l'hypersensibilité au travail, et y compris ses implications sur le bien-être, le stress, la performance et les émotions. Alors, il y en a une. Donc, cette étude, elle examine le concept de la sensibilité au travail. Elle met l'accent sur les aspects théoriques et empiriques. C'est-à-dire qu'en fait, les chercheurs ont développé et testé un modèle conceptuel pour comprendre comment la sensibilité au travail influence le bien-être des employés et leur satisfaction professionnelle. Et ils ont constaté que la sensibilité au travail est liée à des niveaux plus élevés d'émotions positives aussi. Et donc ça, c'est lié à l'implication professionnelle. C'est-à-dire que Les personnes hypersensibles qui arrivaient à s'impliquer professionnellement comme elles souhaitent, eh bien, elles avaient un niveau de satisfaction bien plus grande que les autres. Mais aussi, si elles n'arrivaient pas à s'impliquer professionnellement comme elles souhaitaient, elles avaient malheureusement aussi des émotions bien plus négatives que d'autres personnes. La deuxième étude que je trouve intéressante et qui va faire lien avec tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est comment les personnes hypersensibles interagissent dans leur environnement professionnel. Là, les chercheurs mettent en évidence les défis et les opportunités associées à l'hypersensibilité au travail et soulignent l'importance de reconnaître et de soutenir les besoins spécifiques de ces individus dans un milieu professionnel parce que ce sont des individus clés, en fait, pour que l'ambiance soit positive au travail. Donc ça, c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'au sein du travail, une personne hypersensible peut apporter beaucoup de choses et ça fait lien avec ce que je vous ai dit précédemment. Rappelez-vous, si vous êtes la personne ben justement vers qui on se tourne, vers qui on peut se confier en toute sécurité, en toute confiance, ben ça fait du bien en fait d'avoir une personne comme ça au sein du travail. Une autre étude examine la relation entre la sensibilité et les traitements sensoriels, du coup, au travail. Les chercheurs ont constaté que les individus hypersensibles sont plus susceptibles de percevoir et de réagir aux comportements négatifs ou hostiles au travail. Ils ressentent donc plus facilement aussi l'humeur des autres. Donc oui, on est des éponges. Ce qui peut avoir des implications importantes sur leur bien-être et leur satisfaction professionnelle. C'est-à-dire qu'on remarque que beaucoup d'hypersensibles, en fait, arrêtent leur travail ou quittent leur travail, non pas parce qu'ils n'aiment pas leur travail, mais parce que l'ambiance n'est pas bonne. Ils vont préférer, en fait, aller dans un travail moins intéressant, mais où il y a une meilleure ambiance. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul si vous êtes dans ce cas-là. Et la dernière étude que j'ai trouvée, que je trouve toujours tout aussi intéressante, vous avez l'habitude, c'est tout ce qui est lié à l'empathie et à la performance au travail. Donc, bien sûr, les chercheurs ont démontré encore une fois que les individus hypersensibles ont une plus grande empathie envers leurs collègues. Donc, ça peut les rendre plus vulnérables au stress et à l'épuisement professionnel, s'ils n'arrivent pas effectivement à se distancier des émotions des autres, mais encore une fois, qu'ils ont un rôle hyper important en fait au sein même d'un groupe en fait social et permettent en fait des relations interpersonnelles plus épanouissantes. Voilà. Donc c'est pour vous montrer à quel point non, c'est pas juste dans votre tête, non, ce n'est pas juste que vous. Et ça peut être hyper intéressant justement, encore une fois, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre et de développer justement toute cette connaissance sur qui vous êtes et l'environnement qui vous est le plus adapté. Encore une fois, je le redis, mais pour les personnes qui sont intéressées pour travailler tout ça, je pense que le programme OVPA est vraiment fait pour vous. Donc vous n'hésitez pas, c'est en barre d'infos. C'est un programme uniquement par contre pour les femmes atypiques. Et non, vous n'avez pas l'obligation de savoir si vous êtes atypique ou non. Si en fait ce podcast vous parle, si mon travail vous parle, vous êtes légitime à aller dans le programme, en fait, sachez-le. Et je fais bénéficier, en fait, de tests qui sont, en fait, des tests officiels, en fait, puisque en qualité de conseillère d'insertion et transition professionnelle, j'ai accès à des tests officiels de bilan de compétences. Et donc, je vous donne accès à des tests de bilan de compétences pour les personnes qui sont un peu perdues, tout ça. Mais comme ces tests à eux seuls, en fait, je trouve qu'ils ne conviennent pas aux atypiques, notamment aux profils multipotentiels. Vous avez accès à plein de vidéos qui vont expliquer comment, en fait, on analyse. Et puis, en plus, vous avez des lives avec moi, où je peux répondre à vos questions pour décortiquer un peu ces tests aussi. Mais je vous laisse pas sans rien. Comme d'habitude, je vous propose des petits exercices, 4-5 petits exercices pour vous aider à vous épanouir dans votre vie professionnelle. Alors, c'est des petits tips, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Déjà, le premier, je pense que l'exercice de tout ce qui est pleine conscience, respiration, méditation, c'est vraiment très très bon pour diminuer le stress au travail. Et donc, ces petits moments-là, ils peuvent se faire très rapidement. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 minutes, voilà, c'est pas toujours facile, mais d'avoir 5 minutes par-ci, par-là, juste en fait de se reconnecter, encore une fois, à nos corps, à respirer, à avoir conscience que là, maintenant, de suite, je suis peut-être dans un environnement tranquille, que c'est juste peut-être un moment de crise à passer, dans le sens où là, comme ça, je ressens du stress, mais c'est OK, mais ça fait beaucoup de bien. La deuxième petite astuce, c'est de pouvoir établir des limites qui sont claires, en fait. Peut-être pour vous, c'est-à-dire arriver, peut-être, encore une fois, à oser dire non, à oser, en fait, tout simplement vous affirmer quand ce n'est pas possible, mais envers vous-même. C'est-à-dire vous mettre des limites en termes de temps, d'interaction sociale au travail, ce genre de choses, ça peut énormément vous aider pour éviter, encore une fois, la fatigue relationnelle. 3, c'est prendre des pauses régulières pour se ressourcer, se recentrer. Si vous n'êtes pas fan de tout ce qui est méditation, stress, sophrologie, il y a la sophrologie aussi qui est super. Bref, si vous n'êtes pas fan de tout ça ou que vous n'êtes pas prêt ou que vous ne le sentez pas, c'est totalement OK. Mais peut-être prendre des pauses. Et il y a la méthode Pomodoro d'ailleurs qui est assez connue, vous savez, où on travaille sur un temps limité et après on se fait une pause obligatoirement et on reprend après le travail. Donc des mini-pauses comme ça. Et je pense notamment aux personnes TDAH qui ont une hyper-focalisation au point où parfois ils en oublient d'aller aux toilettes, de manger, de boire ou je ne sais quoi, d'avoir un minuteur, ça peut énormément vous aider en fait, parce que mine de rien, quand bien même vous êtes en hyper focalisation et que là vous éclatez parce que vous êtes hyper concentré et vous êtes à fond, ça peut énormément stresser votre corps en fait physiquement, donc il y a une fatigue physique aussi qu'il faut prendre en considération. Ensuite, je pense que ça peut être très important de développer des vraies stratégies de communication. Les personnes atypiques sont vite maladroites. On a la sensation parfois d'être un peu à côté de la plaque, mais on ne sait pas où est la plaque. Donc, moi, la première. Donc, ça peut être très stressant et très frustrant parce que du coup, on a l'impression que quoi qu'on dise, c'est mal interprété et en fait, que ça nous retombe dessus. Donc, vraiment, développer des stratégies de communication. Donc, la CNV, tout ça, vous l'avez encore une fois, bien sûr, dans le programme. Mais vraiment, vous avez plein de vidéos super chouettes sur Internet, sur la CNV et notamment la CNV au travail. N'hésitez pas à regarder ça sur YouTube ou je ne sais où. Vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses qui peuvent vraiment vous servir et qui va vous soulager aussi du stress interpersonnel, des conflits, de comment finalement gérer quand on est face à quelqu'un qui nous fait des critiques. Ça peut vraiment vous aider. Et à la fin, bien sûr, c'est la dernière astuce, mais je pense que ça vient faire la conclusion de tout ce que je vous ai dit, c'est de créer un espace de travail personnalisé qui apaise en fait, qui va vous apaiser et qui va réduire notamment toutes les surstimulations. Donc ça, c'est pas toujours facile à faire, mais pour les personnes pour qui c'est possible, je pense notamment aux entrepreneurs où on peut faire son propre bureau, on ne pense pas assez à ça. Notamment peut-être pour les personnes qui auraient une hyperesthésie visuelle et qui auraient besoin de minimalisme. Donc ça, c'est pas toujours facile. Donc est-ce qu'on se met face à une vitre? Est-ce qu'on met le bureau face à un mur? Il y a plein de choses comme ça qu'il faut tester. Et parfois, on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas testé. Voilà. Bref, j'espère que cet épisode vous a rassuré, comme d'habitude. Peut-être que ça vous a encouragé à aller à la recherche peut-être un peu plus de connaissances envers vous-même, de compréhension aussi, et peut-être d'empathie pour vous-même. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a invité à vous aimer, à vous comprendre, à vous légitimer dans tout ce que vous ressentez dans le monde professionnel. N'hésitez pas à me le dire et sur les réseaux sociaux, en commentaire. Et comme d'habitude, ça me fait très plaisir si vous laissez une note, un avis, qu'importe la plateforme d'écoute où vous êtes. Et je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi prochain. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée.